Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Villon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du lundi 8 mai 2023. Au Sénégal, Ousmane Sonko condamné à 6 mois de prison avec sursis, une peine qui rend l'opposant inéligible pour la présidentielle. Au Mali, un mouvement critique de la junte annonce s'opposer au référendum constitutionnel. Deuil national en RDC après des inondations qui ont fait près de 400 morts.
Donc le bilan qu'on a actuellement, on est autour de 400 personnes. Mais c'est une catastrophe, donc, qui fait que le village qui a été touché, de rivière, tout ça.
Théo Ngouabidje Kassi, le gouverneur du Sud Kivu, nous fera le point de la situation dans la partie magazine. En Ukraine, Volodymyr Zelensky assure que la Russie sera vaincue comme le nazisme l'a été en 1945. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Écho. Pour l'instant, le journal. Au Sénégal, la justice a condamné aujourd'hui Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis lors d'un procès en appel pour diffamation. Cette sentence est lourde de conséquences pour l'éligibilité de l'opposant à la présidentielle de 2024. Notre correspondant à Dakar, Sidina Bagay, nous en dit plus.
Oui, une sentence lourde de conséquences, une peine avec sursis, mais Ousmane Sonko, qui a été reconnu coupable par un tribunal d'appel à Dakar, a été condamné à 6 mois avec sursis. Pour diffamation et injure, une peine qui lui fait perdre son éligibilité au sens de l'article L30 du Code électoral sénégalais qui dit qu'on ne doit pas inscrire sur la liste électorale pendant un délai de 5 ans à compter de la date de condamnation définitive quelqu'un qui est condamné à diverses peines, dont celui de 6 mois avec sursis à laquelle on a condamné Ousmane Sonko. Il faut aussi préciser que s'il décide de se pourvoir en cassation, la peine sera suspendue, mais c'est le dernier recours qui lui reste pratiquement. Et on peut dire que la peine est moins légère que ce qu'avait requis le parquet, parce que le procureur de la République près du tribunal de Dakar avait demandé à ce qu'on condamne Ousmane Sonko à une peine de 2 ans, dont 1 an d'emprisonnement ferme. En plus de cela, il avait demandé qu'un mandat d'arrêt soit décerné à l'opposant. Il n'a pas été suivi dans son réquisitoire par le juge, mais n'empêche, comme tu l'as dit à l'entrée, Ousmane Sonko a reçu un verdict lourd de conséquences parce que le principal enjeu, c'était son éligibilité pour la présidentielle de 2024, où il est vu comme l'un des principaux opposants au président Macky Sall. Et pour le moment, Ousmane Sonko ne pourra pas faire partie de cette élection-là.
Au Mali, des voix s'élèvent contre la tenue d'un référendum sur le projet de nouvelle constitution le 18 juin. L'appel du 20 février pour sauver le Mali, un mouvement critique de la junte, juge cette réforme constitutionnelle illégale et superflue. Alexandre Nolognon.
C'est la deuxième expression organisée d'hostilité au projet de nouvelle constitution depuis l'annonce, la semaine passée, de la date du référendum. L'appel du 20 février estime que le référendum est illégal et qu'aucune condition n'est réunie pour sa tenue dans un pays dont plus des 2/3 échappent, selon lui, au contrôle de l'État, ce que réfute le gouvernement. En outre, le mouvement trouve que le projet remet en cause l'indépendance de la justice et organise l'impunité de quelques personnalités. Le collectif affirme qu'il empêchera par les voies de droit la tenue du référendum et préconise des élections pour un retour rapide des civils au pouvoir. Samedi dernier, une 20aine d'associations religieuses, culturelles ou politiques ont annoncé s'unir pour obtenir le retrait du principe de laïcité de l'État dans le projet. Le référendum est la première étape du calendrier pour le retour des civils au pouvoir en 2024.
Les Soudanais ont le regard tourné vers Jeddah, en Arabie Saoudite, où se tiennent des pourparlers entre les représentants des factions belligérantes à Khartoum. Les pourparlers ont débuté samedi. Entre l'armée et les paramilitaires, les deux camps ont convenu de ne discuter que des mesures de sécurité à prendre pour faciliter l'accès urgent à l'aide humanitaire et restaurer les services essentiels et non de mettre fin à la guerre. Plusieurs cessez-le-feu ont été violés dans les minutes suivant leur annonce depuis le début, le 15 avril, des hostilités qui ont déjà fait environ 700 morts selon une ONG. L'ONU parle de son côté de 335 000 déplacés et 117 000 réfugiés. L'Organisation des pays d'Afrique australe a promis aujourd'hui d'envoyer des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo en proie à des violences, sans préciser de date ni leur nombre, lors d'un sommet à Windhoek, la capitale de la Namibie, dans la province congolaise du Nord Kivu. Le M23 s'est emparé depuis novembre 2021 de larges territoires riches en minerais et continue d'avancer malgré une feuille de route pour la paix conclue à Luanda en Angola en juillet 2022. Cela dit, toujours à RDC, un deuil national a été déclaré aujourd'hui. Le bilan des inondations de jeudi dernier dans le territoire de Calais, dans le sud Kivu, s'est encore alourdi. Claire Morin-Jibou.
Le gouvernement de Kinshasa a décrété un jour de deuil national, mais n'a pas encore communiqué de bilan et a envoyé une équipe sur place. Théo Ngwabidje-Kazi, gouverneur du Sud Kivu, a déclaré à la VOA que le bilan pour le moment s'élevait à 401 morts et que les recherches se poursuivent. Au pied des collines du territoire de Calais, sur la rive ouest du lac Kivu, frontalier du Rwanda, la boue et des pierres ont recouvert tout un quartier où il y avait auparavant des maisons, des écoles et un centre de santé. Les rivières ont débordé et tout emporté sur leur passage. Les villages de Bouchouchou et Nyamoukoubi ont été inondés jeudi après des jours de pluie torrentielle qui ont provoqué des glissements de terrain. L'Agence humanitaire des Nations Unies a déclaré dimanche qu'au moins 270 morts ont été confirmés et que plus de 300 personnes manquaient à l'appel.
Au Zimbabwe, l'auteur à succès, Tsitsi Dangarembga, a été acquitté aujourd'hui en appel d'accusation d'incitation à la violence pour avoir manifesté silencieusement avec une pancarte dans les rues vides de Harare pendant le confinement en 2020. Les juges de la cour d'appel ont donné tort au magistrat qui l'avait condamné en première instance, précisant qu'il rendrait public leur argumentation dans un deuxième temps. En première instance, en septembre, Tsitsi Dangarembga avait été condamné à 6 mois de prison.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien a promis la défaite à la Russie ce lundi pour l'anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la veille de célébrations en grande pompe à Moscou. En Allemagne, les drapeaux russes et soviétiques seront bannis à Berlin le 9 mai. Le point avec Nani Talani.
Tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu de la même manière que le nazisme a été vaincu, a déclaré Volodymyr Zelensky peu après une nouvelle attaque nocturne russe. Plus de 30 drones ont été abattus au-dessus de Kiev et 2 civils tués dans les régions d'Odessa et Zaporijja dans le sud. Il a annoncé que l'Ukraine va désormais marquer la fin de la Seconde Guerre mondiale à la manière occidentale le 8 mai et célébrer le 9 la journée de l'Europe. Les drapeaux russes et soviétiques seront bannis mardi dans le centre de Berlin. Les drapeaux ukrainiens, initialement interdits par la police, seront autorisés. De son côté, la Russie prépare ses commémorations demain mardi avec le traditionnel défilé militaire et un discours de Vladimir Poutine devant des milliers de soldats sur la place Rouge. Un rassemblement des motards russes du club Loup de la Nuit, des fidèles du Kremlin, parti fin avril de Moscou, est attendu dans la capitale allemande.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra demain mardi à Kiev pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'occasion de la Journée de l'Europe, a annoncé la Commission ce lundi. Ici aux États-Unis, le procès au civil contre Donald Trump à New York, accusé de diffamation et de viol par une ancienne journaliste, touche à sa fin avec, aujourd'hui, les plaidoiries des avocats de la plaignante et de la défense. Après la plaidoirie de la partie civile, ce sera au tour du camp Trump avant que le jury ne se retire pour délibérer demain mardi. Le verdict plus tard cette semaine ne relèvera pas du pénal, mais du civil, afin de déterminer l'éventuelle responsabilité de M. Trump et le niveau des dommages intérêts. Au Texas, 8 personnes ont été tuées et 10 d'autres blessées dimanche lorsqu'une voiture a brûlé un feu rouge et foncé dans un groupe de personnes attendant le bus devant un centre accueillant des migrants. Les forces de l'ordre de la ville de Brownsville ont dit ne pas pouvoir dans l'immédiat confirmer s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte délibéré, mais un témoin a affirmé que le conducteur avait insulté les personnes présentes avant d'accélérer. Non loin de là, dans la ville d'Allen, toujours au Texas, au moins 8 personnes ont été tuées et 7 autres blessées lors d'une fusillade qui s'est produite samedi dans un centre commercial. Le tireur a été abattu par un policier, a annoncé le chef de la police municipale lors d'une conférence de presse, précisant que les motivations de l'assaillant étaient inconnues et qu'il semblait avoir agi seul. Et puis, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan, a rencontré lors d'une visite en Arabie Saoudite le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, avec lequel il a évoqué les progrès significatifs dans les efforts de paix pour le Yémen, a rapporté dimanche la présidence américaine. Cette visite était notamment destinée à resserrer les liens parfois distendus entre Washington et Riyad à la suite des baisses de production de pétrole décidées par l'OPEP et des tensions liées à l'assassinat du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec Nani Talani.
L'ANSAT, l'Agence nationale togolaise de la sécurité alimentaire, a ouvert de nouveaux guichets de vente de ses produits pour renforcer la sécurité alimentaire dans le pays. Ces guichets sont destinés aux commandes groupées des personnels des structures publiques et privées de toutes les préfectures du pays, ainsi qu'aux commandes des agriculteurs. Pour cette opération, le maïs, le riz, le haricot et le sorgho sont en vente par sac de 50 kg et 25 kg, indique Togo First. Au Bénin, les agriculteurs utilisent des engrais biologiques fabriqués localement à base de feuilles, de graines de soja séchées et de coquilles d'escargots broyés pour stimuler les cultures. En utilisant des engrais minéraux, par exemple sur certaines variétés de maïs, les agriculteurs peuvent produire environ 850 kg ou peut-être une tonne par hectare, selon la variété utilisée, explique Arnaud Bonou, l'agriculteur qui a inventé l'un des engrais liquides les plus utilisés. Les utilisateurs affirment que les engrais organiques ont un impact plus positif sur les cultures et ne dégradent pas le sol à long terme.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les affiches des quarts de finale de la CAN des moins de 17 ans sont connues.
Oui, le Burkina Faso a arraché hier dimanche le dernier billet pour les quarts de finale. Succès 2-1 contre le Cameroun. En demi-finale jeudi, les étalons cadets affronteront le Nigeria. Pour les autres affiches, on aura Sénégal-Afrique du Sud, Mali-Congo et le très attendu Maroc-Algérie. Les quatre demi-finalistes se qualifieront pour le mondial des moins de 17 ans. Prévu à la fin de cette année 2023.
Au Mali, l'amicale des arbitres de football a levé son mot d'ordre de grève.
L'amicale avait suspendu sa participation au championnat et aux éliminatoires de la Coupe du Mali édition 2023 suite à l'agression d'un des leurs en la personne de El Hadj Birama Kone. De Bamako, la correspondance de Siaka Traoré.
L'arbitre El Hadj Birama Kone a été agressé lors des matchs opposant le stade malien de Bamako à l'Union sportive des forces armées et de sécurité USFAS au stade Diarra H de Koulikoro. C'était pour exprimer son ras-le-bol en invitant la Fédération malienne de football à surtout sécuriser les arbitres que l'amicale des arbitres de football du Mali avait demandé à ses membres de ne plus officier les matchs du championnat et ceux des éliminatoires de la Coupe du Mali jusqu'à nouvel ordre. Le président de l'amicale Ousmane Sidibé avait indiqué que sa structure ira jusqu'au bout pour que plus jamais un acte du genre ne se reproduise contre un arbitre au Mali, et de poursuivre que la reprise est conditionnée à des garanties sécuritaires de la part de la fédération. Pourquoi ce sont les arbitres qui sont tout le temps victimes d'agressions verbales et physiques, alors que, dans leur jargon, il n'y a jamais de favoritisme lors des matchs? C'était indigné M. Sidibé avant d'ajouter que l'arbitre blessé, le nommé El Hadj Birama Kone, va mieux. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Ici en NBA, les playoffs se poursuivent.
Phoenix survit à 53 points de Nikola Jokic, James Harden assomme les Celtics. Bagasikura.
Malgré 53 points de Nikola Jokic, Phoenix a égalisé à 2 victoires partout face à Denver, 129 à 124 dans leur demi-finale de conférence. Jokic a été impliqué dans un léger accrochage avant la pause avec le propriétaire de l'équipe de l'Arizona, Matt Ishbia, qui n'a pas voulu le laisser prendre le ballon sorti des limites, ce qui a conduit le Serbe à le pousser. Jokic a reçu une faute technique, mais ce genre d'incident peut aussi conduire à une suspension, ce qui serait hautement préjudiciable aux Nuggets qui recevront mardi lors du match numéro 5. À l'Est, Philadelphie a encore dû son salut à James Harden, auteur de 42 points, et comme il l'avait fait quasiment au buzzer pour arracher le gain du match numéro 1, le Barbu a sorti un shoot de 3 points gagnant à 19 secondes de la fin de la prolongation. Phila s'est imposé devant Boston 116 à 115. Le MVP de la saison, le Camerounais Joel Embiid, a aussi montré l'exemple en inscrivant 34 points et récoltant 13 rebonds.
Merci, Bagassi.
Page des sports, VOA Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Deuil national aujourd'hui en République démocratique du Congo pour les morts des inondations de jeudi dernier dans le territoire de Kalehe, dans le sud Kivu. Plus de 400 corps sans vie ont été retrouvés après les fortes pluies qui ont emporté des villages entiers à certains endroits. Les fouilles se poursuivent. Eddie Sango a joint le gouverneur du sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, pour faire le point.
Le deuil national a été décrété par le président de la République en mémoire des victimes de la catastrophe des Calais, précisément à Nyamukubi et à Bouchouchou. C'est à plus de 80 km de Bukavu. Donc c'était question de rendre hommage à nos compatriotes qui sont décédés. Alors à notre niveau, nous avions déjà fait le déplacement des Calais il y a 3 jours et nous avons apporté la première assistance d'abord aux victimes. En ce qui concerne l'enterrement, nous avons fait un enterrement sécurisé. Et puis, à côté des victimes, il était des décédés, voulais-je dire. Il était question aussi de s'occuper de personnes blessées. Donc, nous avons donc transféré le blessé sur place et d'autres ont été référés au niveau des formations sanitaires appropriées ici à Bukavu. À côté de ça, il était question aussi de regarder la situation, que ce soit aussi la route qui est touchée, donc la route nationale numéro 2, où nous avons demandé que l'office des routes puisse déjà entreprendre les travaux puisque la route est sectionnée à plusieurs endroits. Évidemment, il y a aussi des mesures à court terme et à long terme qu'on va prendre pour nous éviter, pour prendre des mesures face à cette catastrophe naturelle qui nous est arrivée. Depuis hier, nous avons aussi reçu la délégation du gouvernement central conduite par le vice-président de l'Assemblée et avec plusieurs ministres pour qu'ensemble, ils viennent nous appuyer dans la riposte face à cette situation, à cette catastrophe qui nous a endeuillé.
Aujourd'hui, quel est le bilan que vous avez? Mais est-ce que c'est un bilan définitif de la situation là-bas?
Le bilan évolue au jour le jour, puisque vous voyez, ce bilan bouge au fur et à mesure que les recherches en cours, on a des personnes qu'on découvre décédées et d'autres blessées. Donc le bilan qu'on a actuellement, on est autour de 401 personnes, c'est le bilan que nous avons eu, personnes décédées. Ce chiffre macabre est en train de monter, puisque au départ c'était 176 personnes, et puis il y a eu des disparus qu'on arrive à trouver, donc c'est pour ça que ce bilan, il est provisoire. S'il est très important, il est très lourd. Quel cas on a une catastrophe, le bilan ne peut être qu'élevé. C'est une catastrophe, donc, qui fait que le village qui a été touché, les rivières, tout ça.
C'était le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi, gouverneur du Sud Kivu.
Restez branchés sur VOA Afrique à Bukavu sur 97.4 FM.
Au Togo, des élections législatives et régionales sont prévues cette année, mais la date n'est pas encore annoncée. La Commission électorale nationale indépendante a débuté le recensement des électeurs. Les premières opérations effectuées dans la zone 1 s'achèvent avec beaucoup de difficultés. De Lomé, notre correspondant, Kossi Wosu.
Malgré la prorogation de 2 jours du recensement dans la zone 1 qui comprend Lomé et les autres localités de la région maritime, plusieurs Togolais, désireux de se faire recenser pour les élections à venir, risquent de rester sur le carreau. Les difficultés rencontrées dès les premiers jours de l'opération n'ont toujours pas trouvé de solution au grand désarroi des populations.
J'ai fait l'expérience, j'ai essayé déjà 2 fois de me faire enrôler, j'ai pas pu. Les opérateurs de saisie sont très 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 lents et nous n'avons pas la rapidité d'exécution au niveau des appareils. Banalement, quelqu'un peut faire 15 à 30 minutes pour un seul enrôlement. J'ai pas eu le temps d'attendre longtemps, je suis reparti.
Adam Raouf est chef opérateur de saisie dans un centre d'enrôlement.
Les soucis qu'on a au niveau des ordinateurs, c'est que les ordinateurs n'arrivent pas à reconnaître certains empreintes. Donc on est obligé de demander à certains électeurs d'aller au moins laver leurs mains et revenir. Bon, pour d'autres, après avoir fait le lavage, ça prend. Pour d'autres, ça refuse toujours et on les envoie dans d'autres salles.
À côté, Pierre est un habitué des opérations et pointe du doigt la vétusté du matériel.
Il y a photo de machines également, plus de 4 ou 5 qui se sont stoppées parce que ces machines sont trop vieux. Depuis, pour des élections dans ce pays, on ne voyait que ces machines. Pour nous, nous disons que c'est trop vieux. On doit les changer.
Ailleurs, ce sont des problèmes avec l'encre ou les papiers d'impression des cartes qui ne sont pas disponibles.
Disons que hier, ce qui a été marrant pour toute la communauté, qu'on nous a appris que les papiers qui permettent à ce qu'on établisse les cartes d'électeurs, ces papiers sont finis. Ils sont venus dire aux amis, à la communauté que bon, il n'y a pas de carte, donc le mieux c'est d'attendre du moment où les cartes seront là, on va encore les faire appel.
Malgré toutes ces déconvenues, Kokou, un producteur agricole qui a déjà passé 3 jours à faire la queue, garde toujours l'espoir à quelques heures de la clôture des opérations dans la zone. Moi j'ai fait le tour 3 fois déjà sans avoir la carte, mais j'ai l'espoir. Notre souhait est que la CENI prolonge encore les délais pour nous autres qui n'avions pas eu nos cartes d'électeurs. Les partis politiques de l'opposition, à l'instar de la dynamique pour la majorité du peuple, demandent que la CENI accorde davantage du temps, au moins 10 jours, pour le recensement dans cette zone 1, afin de garantir la confiance dans le processus électoral. Kossi Wusu, Lomé, pour VOA Afrique.
Alexandrine Crelogno avec vous dans Washington Forum cette semaine. La désinformation qui prend de plus en plus d'ampleur. Le phénomène inquiète les États et les professionnels des médias. La manipulation et la désinformation se sont intensifiées avec l'avènement des réseaux sociaux et la propagation rapide de l'information en ligne. Reporters sans frontières émet un constat alarmant sur la profusion d'informations provenant de différentes sources, mais sans qu'on ne soit sûr de leur véracité et de leur impartialité. Comment venir à bout de la désinformation en ligne et garantir un accès à une information de qualité et fiable? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Lancé en décembre 2021, le projet de nomination des rues du district d'Abidjan pour moderniser la ville va bientôt rentrer dans sa phase active. Il s'agira de faciliter les déplacements de la population et d'attribuer aux rues les noms de personnalités ivoiriennes qui ont marqué l'histoire du pays. Notre correspondante à Abidjan, Delphine Bouise, nous en dit plus.
Conduit par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et financé par la Banque mondiale, le projet d'adressage des rues du district d'Abidjan en abrégé PADA avance. Cependant, quand il s'agit de garder les noms coloniaux que portent les rues ou les rues baptisées, les avis sont partagés. Certaines personnes souhaitent voir enfin les rues, les places et bâtiments publics porter les noms d'illustres personnalités de la Côte d'Ivoire ou de l'Afrique.
Ces boulevards-là devraient en quelque sorte s'adapter à nos réalités, à nos appellations, pour que la population puisse s'imprégner et puis en savoir plus. Comme on peut dire par exemple Sundiata Keita, directement ça reste dans les mentalités.
Partez au plateau, on a donc le boulevard de France, vous avez l'avenue Noguès. L'avenue Marchand, c'est encore au plateau. Pas un seul Ivoirien.
Voilà, le temps colonial est passé. On ne peut pas valoriser les colons plus que nous-mêmes. Nous avons des zéros. On doit utiliser des noms de ces icônes-là.
Dans cette quête d'identité ou de retour aux sources, d'autres sont moins radicaux.
Bon, les rues qui portent le nom des colonisateurs, c'est pas mauvais de garder l'essence qui est là.
C'est un point de notre histoire. Les effacer, c'est aussi effacer un point de notre histoire.
Alphonse Nguesson est le directeur du projet d'adressage au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme.
Le numéro que nous avons là est le début de l'adresse. Aujourd'hui, le gouvernement a validé les propositions de voies qui ont été proposées par la CAPEC. Lorsque ces noms seront divulgués, en ce moment, ça viendra compléter le numéro qui est là pour constituer l'adresse totale.
La CAPEC est la cellule d'analyse politique et économique logée au Centre ivoirien de recherche sociale. Le gouvernement, au cours du Conseil des ministres du 3 mai, a validé les choix des noms que vont porter certaines rues. 2400 ont été identifiés et seront affectés aux voies structurantes du district d'Abidjan. Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement.
Sur l'ensemble des noms validés, 52% se rapportent à des personnalités politiques, religieuses, traditionnelles, culturelles, scientifiques, sportives et artistique. 48% portent sur des concepts, des valeurs, des faits historiques et sur des dates importantes de la nation.
Le processus est déjà en marche sans rompre avec le passé colonial. Après Abidjan, le projet pour rebaptiser les noms des rues va s'étendre à d'autres villes comme Yamoussoukro, la capitale politique, Bouaké, San Pedro, Daloa et Korogo. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a réaffirmé que les États-Unis pourraient se retrouver à court de liquidités dès le 1er juin. Cette mise en garde intervient avant la rencontre entre le président Joe Biden et les membres du Congrès républicain et démocrate demain mardi pour discuter de la nécessité de relever le plafond de la dette. Véronica Balderas-Iglesias explique les enjeux, le récit avec Yacouba Ouedraogo.
Le Congrès doit relever le plafond de la dette et permettre au gouvernement d'emprunter plus d'argent pour payer ses factures, a averti Janet Yellen, secrétaire au Trésor, dans l'émission This Week diffusée sur la chaîne ABC.
Qu'il s'agisse d'un défaut de paiement des intérêts dus sur la dette ou des paiements dus aux bénéficiaires de la sécurité sociale ou aux prestataires de Medicare, nous n'aurions tout simplement pas assez de liquidités pour faire face à toutes nos obligations.
On peut aussi s'attendre à des répercussions internationales.
Les titres du Trésor américain constituent la garantie la plus sûre du système financier mondial. Si les États-Unis ne parvenaient pas à honorer l'ensemble de leurs dettes, notre solvabilité serait remise en question.
Le président Joe Biden doit rencontrer mardi les chefs de file des deux partis au Congrès. Les démocrates font pression pour que le plafond de la dette soit relevé sans condition préalable. Les républicains exigent une réduction des dépenses fédérales. Le sénateur républicain James Langford a fait part de ses attentes concernant ses réunions lors de l'émission This Week sur ABC.
Tout le monde sait qu'il y a des gaspillages dans l'administration. Nous devrions en fait nous asseoir et être capables d'en parler, de dire quelles sont les priorités, comment allons-nous dépenser pour ces priorités et nous assurer que nous nous réalignons.
Jusqu'ici, le président Biden a refusé de négocier avec les républicains sur le plafond de la dette. Il insiste pour qu'il soit relevé sans condition, comme cela a été fait des dizaines de fois dans le passé par les présidents des deux partis. Lors de l'émission Meet the Press de la chaîne NBC, Hakeem Jeffries, chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, a déclaré que son parti est uni derrière le président Biden.
En fin de compte, chacun évalue les mérites d'un texte législatif particulier qui nous est présenté, mais nous sommes en phase avec le président Biden et les démocrates du Sénat. Nous voulons faire ce qu'il faut pour le peuple américain.
Les États-Unis n'ont jamais fait défaut sur leurs dettes. Le financement devant s'épuiser cet été, les appels à la négociation se multiplient.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Mignon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
One for the party, two for the money.